Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui revient après deux semaines d'absence, deux longues semaines d'absence. Et ce soir, comme nous vous l'avions annoncé la fois dernière, nous avons invité donc un pote, Michael Parer, pour un de ses livres, un livre qui vient de publier, enfin qui l'a publié très très peu de temps je crois.
Un mois et demi,
voilà, qui s'intitule, on va pas se faire que des amis, hein, qui s'intitule Michel Onfray, une imposture intellectuelle. Donc, alors, Michael, c'est un habitué de studio, on le présente presque plus. Donc, éditeur, philosophe, donc les éditions de l'Épervier, plusieurs ouvrages, pas mal de publications, allez voir sur leur site. Vous tapez Épervier, édition de l'Épervier, vous trouverez. Donc, voilà pour la présentation. Maintenant, on va partir peut-être de l'actu. On va essayer de se la jouer comme dans les médias. Bon, avant toute chose, je voudrais dire que la musique douce que vous avez entendue de façon totalement inhabituelle dans notre émission, pour commencer, c'était un morceau d'un groupe qui se nomme Shrimp Boat, et donc bateau à crevettes, et d'un album du ND qui date de 91. Voilà, et c'était bien pour ouvrir sur Onfray, parce que c'est I swear, happy days are mine. Donc je jure que les jours heureux sont à moi. Donc c'est très hédoniste presque.
Mais bien sûr.
Et alors on va partir de l'événement médiatique, du petit événement médiatique qui a marqué l'apparition de cet ouvrage, qu'on va intituler ironiquement La querelle de Balmals. Donc de Palma. Alors est-ce que tu peux raconter un peu?
Ah oui, très rapidement. Donc, je me suis retrouvé dans un salon du livre et du vin à Balma, près de Toulouse, où j'étais invité à une table pour parler, entre autres, de Camus, enfin, surtout de Camus. Et je me retrouve donc à parler de Camus, en tout cas, je dois parler de Camus normalement. Et puis, à cette table, il y a aussi Michel Onfray. Et ce qui s'est passé, c'est que il m'a fait virer du colloque, et dans des conditions très particulières. Il y a d'ailleurs un film sur YouTube qui retrace rapidement les événements, puisqu'on voit dans quelles conditions il demande mon départ et mon éjection manu militari pratiquement, mais ils n'ont pas osé, manu militari c'était trop. Donc il demande mon éjection immédiate du colloque, et il l'obtient. C'est-à-dire que pour avoir écrit Michel Onfray, une imposture intellectuelle, qui, je le dis rapidement, n'est pas un livre d'insultes contre lui, mais au contraire un ouvrage théorique, critique, très sévère sur ses positions philosophiques et politiques, eh bien, donc, pour avoir écrit cet ouvrage, je me suis fait virer. Mais j'en suis fier.
Je vous recommande d'aller voir la vidéo, vous tapez Onfray, Parer... je crois que ça suffit oui. Sur YouTube, et vous trouverez la vidéo qui vaut son pesant de cacahuètes, je peux vous l'assurer, parce qu'on y voit un Michel Onfray très assuré de sa position et qui l'utilise d'une main de maître pour écraser la mouche importune qui tourne autour de lui
complètement.
Donc alors je sais pas si on pourrait appliquer à Onfray les principes de la psychanalyse existentielle et voir dans cet apax médiatique la vérité sur son œuvre. On va peut-être éviter de rentrer sur ce genre de chemin.
Oui.
Bon, pas très intéressant. Mais en tout cas, ça en dit pas mal. Je ne sais pas si ça en dit beaucoup sur son œuvre, mais ça en dit pas mal sur le bonhomme, ou sur ce qu'il est devenu en tout cas, ou sur ce que sa position lui a fait adopter comme type de comportement. Parce que... bon, oui, on en avait parlé un peu avant l'émission. Je l'avais croisé il y a une vingtaine d'années et il ressemblait pas du tout à ça en termes de comportement. Il était plutôt très sympathique. Et là, on voit un autre personnage, un petit dictateur de son monde, oui. qui utilise d'une main de maître,
qui utilise son pouvoir,
pour faire éjecter l'important, qui a osé contredire l'idole.
Exactement.
Donc, allez-y, c'est drôle. L'intervention du maire aussi, il faut son pesant d'or. C'est à peine si tu connais les noms des gens qui sont présents. voilà. Alors, maintenant, on va aborder, après donc, cet intermède comique, mais combien révélateur, on va aborder un petit peu les enjeux, parce que, finalement, attaquer la philosophie d'Onfray, pas Onfray, on y reviendra, mais la distinction est importante. Alors pourquoi? Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que finalement, Onfray, pendant longtemps, on a pu penser que c'était un philosophe qui avait de l'audience, et c'est pas rien, mais aussi un philosophe qui avait de l'audience et qui se disait de gauche et qui se disait même libertaire. Et donc on pourrait se demander, pour une fois qu'on en a un,
qui, pourquoi s'en prendra lui ?
Pourquoi s'en prendra lui ? Parce que après tout, il y a BHL, il y a Glucksmann, il y a qui d'autre encore, l'excité de la radio,
il y a Luc Ferry,
il y a aussi Luc Ferry. Donc tous ces gens-là qui sont clairement à droite, sauf BHL qui prétend vaguement de gauche, mais personne ne le croit.
Et c'est la droite
donc,
de la gauche.
On en a un, c'est mon frère. Quoi. Il attaque les curés, il fait tout un tas de choses.
Pourquoi
qui pourrait nous sembler sympathique et qui pourrait faire de nous, qui pourrait faire croire que c'est un allié. Et, alors pourquoi s'en prendre à lui ?
Et oui, pourquoi s'en prendre à lui ? En effet, parce qu'il semble, comme tu l'as dit, si sympathique et si de gauche et si libertaire. D'abord, je pense que, pour résumer sa position, je pense qu'il est de gauche en apparence et de droite en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une apparence de discours radical et contestataire. Et quand on fouille, en fait, et qu'on lit vraiment les œuvres, on continue, qu'on lit l'œuvre, parce que moi j'ai lu plus d'une trentaine de ses ouvrages, et là on se rend compte que derrière ce vernis médiatique qui lui permet de se positionner comme un auteur contestataire, il y a un fond de pensée totalement réactionnaire, une méthode de lecture qui, elle aussi, est extrêmement conservatrice, et du point de vue libertaire, mais on en rediscutera, une absence totale de conception libertaire collective organisée, le refus complet de l'idée de la révolution, son rejet, et même dans toute son œuvre, et ça c'est une des lignes de force de son travail, c'est un homme qui prend un malin plaisir et qui travaille à détruire, par exemple, les modèles révolutionnaires qui ont existé. C'est-à-dire, en partant de la Révolution française, jusqu'à des révolutions qui ont pu avoir lieu au XXe siècle, il se fonde sur des éléments d'analyse et d'histoire qui lui font détruire littéralement toute la tradition révolutionnaire. Il participe de ce que j'ai appelé, après Domenico Losurdo d'ailleurs, la liquidation pure et simple de la période révolutionnaire moderne. Donc voilà, derrière cette apparence de radicalité et la manière qu'il a de se mettre en scène, d'ailleurs à peu de frais en fustigeant des gens de droite qui sont tellement réactionnaires qu'il n'est pas très difficile de paraître de gauche face à eux, eh bien, il y a en fait une pensée qui est elle-même extraordinairement conservatrice et qui ne pourra jamais aboutir à un bouleversement révolutionnaire, puisque sa grande théorie de fond, c'est que les révolutionnaires sont des buveurs de sang.
Sans parler du fait que le capitalisme est éternel.
Et le capitalisme, on aura l'occasion de le dire, est éternel. Il vaut mieux qu'on se le dise. Et même, un jour, non seulement il est éternel, mais un jour, il y aura le capitalisme libertaire. Amen.
On pourra exploiter librement les ouvriers. On peut le faire déjà. Tu viens d'expliquer le titre, d'une certaine manière, imposture intellectuelle. C'est-à-dire, un imposteur, quelqu'un qui se fait passer pour quelque chose pour quelqu'un qu'il n'est pas, pour quelqu'un qu'il n'a pas.
Et en même temps,
c'était une bonne présentation, je pense, des enjeux, parce que effectivement, on pourrait vraiment se demander pourquoi l'attaquer lui, finalement. Est-ce que c'est pas divisé encore quelque chose qui est déjà trop divisé ou autre. Donc, maintenant, je pense qu'on pourrait, que tu as bien présenté les enjeux un peu de l'ouvrage, qui ne se limite pas d'ailleurs, j'y reviendrai, on y reviendra ensemble, une critique. Il faut savoir qu'il y a toute une deuxième partie où tu proposes de nouvelles idées pour l'anarchisme, et qui est au moins aussi intéressante que la première. Donc, on pourrait passer dans le vif,
oui, et puis
commencer à démonter un petit peu la pensée d'Onfray, sa philosophie. Alors toi, tu l'attaques sur trois aspects de sa pensée, l'aspect philosophique, l'aspect historique et l'aspect politique.
Oui.
Donc, du point de vue de l'aspect philosophique, on pourrait peut-être dire deux, trois choses avant tout de sa méthode.
Oui, ça c'est très important.
Commencer par la méthode, et ensuite on passe au postmodernisme.
Oui, tout à fait, commencer par la méthode. Oui, parce que quand on se penche sur son œuvre, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une imposture intellectuelle aussi, Michel Onfray, une imposture intellectuelle, on se rend compte qu'il nous donne un certain nombre de clés en apparence. Par exemple, il se dit nietzschéen en apparence, c'est son grand truc. Mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que sa méthode n'est pas du tout nietzschéenne, au sens strict, elle est sainte-beuvienne. C'est-à-dire qu'il se réclame d'un critique littéraire du 19e siècle qui s'appelle Sainte-Beuve, dont la spécialité était d'éclairer le sens d'une œuvre à partir des faits biographiques et anecdotiques de la vie de l'auteur. Ouais.
Et par exemple, chez Michel Onfray, vous pourrez le trouver illustré dans Le Ventre des philosophes, où il nous explique beaucoup de choses sur Rousseau à partir de son végétarisme.
Voilà, Rousseau, végétarien, buveur de lait. Rousseau, buveur de lait, et donc Rousseau, républicain. Bon, en fait, il y a une théorie du régime alimentaire. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes, qui constitue, selon lui, la clé de compréhension du sens des œuvres philosophiques. C'est à la fois, il faut le dire, absolument ridicule et dénué de sens sur le fond de prétendre ramener le sens profond d'une œuvre à quelques anecdotes biographiques, ou à une anecdote biographique, mais en plus de ça, donc c'est déjà en soi, c'est déjà une imposture, mais en plus, le fait de dire qu'on utilise un auteur de la tradition, de la grande tradition des philosophes, même si j'en dis beaucoup de mal aussi dans ce livre qui s'appelle Nietzsche, et qu'en fait on fait de la critique littéraire, ça c'est une véritable imposture. C'est pour ça d'ailleurs, j'insiste beaucoup dans tout le livre, au sens strict, je ne m'intéresse pas tant à l'homme, et la question de savoir s'il est un imposteur ou pas, je vais le dire sincèrement, je m'en fous. Par contre, son œuvre est une imposture totale. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il fait quelque chose et qui fait autre chose, en fait. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et quand on ne l'explique pas à ses lecteurs, quand on ne le dit pas à ses lecteurs, on est dans l'imposture. Dans le cas donc de cette méthode dite Saint-Beuvienne, ça lui permet en fait de construire en apparence une philosophie facile à comprendre, parce qu'on s'appuie sur des anecdotes, on s'appuie sur des petits faits de la vie d'un tel ou un tel. Et du coup, les gens ont l'impression de comprendre et de faire de la philosophie, alors qu'en fait, ils sont simplement en train de lire une biographie plus ou moins intellectualisée d'un auteur. Et puis, ce qui était au départ, j'ai envie de dire, quelque chose d'un peu sympathique, où on pouvait se dire, tiens, c'est un angle un peu intéressant, c'est vrai que la biographie n'est pas complètement à nier dans la compréhension de l'œuvre d'un auteur, devient un système totalement dogmatique et qui lui permet en plus de salir beaucoup et la plupart des auteurs qu'il n'aime pas. Donc quand il aime bien un auteur, il va mettre de côté les éléments biographiques qui ne lui plaisent pas, qui lui plaisent, ceux qui ne lui plaisent pas, évidemment. Et quand il ne l'aime pas, évidemment, tous les éléments biographiques qui lui déplaisent vont arriver sur le devant de la scène. Et on est face à une pensée totalement partiale. On est très loin d'une philosophie équitable. Et même, à mon sens, on n'est pas dans la philosophie au sens strict, parce qu'on se contente de ressasser des éléments de biographie. C'est très pénible, en fait. Ouais.
Alors ensuite, deuxième élément au sujet de sa philosophie, de l'aspect philosophique de sa pensée, tu critiques son postmodernisme. Alors il faudrait sans doute expliquer aux auditeurs de quoi s'agit-il.
Et oui, c'est important. Ça
il s'agit.
C'est que Michel Onfray est quelqu'un qui se réclame d'une école de pensée qui fait la loi depuis une trentaine d'années et qui consiste à se réclamer en fait toute une série, d'un modèle général de destruction de la connaissance. On favorise l'idée que tout est déconstruit, que tout est fragmenté, que dans la connaissance il est impossible d'avoir une représentation cohérente des choses, que la raison n'est pas véritablement un guide qu'il faut suivre et qu'au contraire il faut faire les choses à l'instinct et à l'affect. Et d'ailleurs, je le dis en passant, à Balma on a pu le voir mettre en pratique sa théorie de l'affect. En effet, on était dans l'affect, on n'était pas dans la raison. Et ça lui permet, en s'appuyant sur toute une série de théoriciens postmodernes, de développer l'idée que pour vraiment dire quelque chose d'intéressant sur quelque sujet que ce soit, il faut dire des choses contradictoires sur ce sujet. Et plus exactement, pour par exemple présenter un auteur, ou un thème, on va créer ce qu'on appelle des oxymores, c'est-à-dire qu'on va rassembler des concepts ou des totalement étrangers les uns aux autres. Et on va dire que c'est ça la vérité de un tel. Alors, je donne un exemple simple. On prend, il y a plein de choses possibles. On prend par exemple en matière politique, on prend le capitalisme et puis on invente l'idée du capitalisme libertaire. Et on dit que l'horizon que nous devons atteindre, c'est de réaliser le capitalisme libertaire. Voilà, oxymore typique de la pensée postmoderne. Évidemment, dans la pensée libertaire, on est dans un combat contre le capitalisme. C'est exclu par la pensée postmoderne qui fait de fausses synthèses et qui présente justement cette espèce de bric-à-brac de notions totalement contradictoires comme la vérité de toute forme de pensée. Et ça lui permet de réviser et de revisiter toute l'histoire de la pensée en général, toute l'histoire de la révolution et des révolutions, et évidemment de pratiquer les amalgames. Car la pensée postmoderne, c'est une pensée d'amalgame qui associe et qui assimile des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et
on peut en parler avec, justement, en quittant l'aspect philosophique de sa pensée pour aborder celui qui est historique, en parlant par exemple de ce qu'il a pu raconter, de ce qu'il a pu dire au sujet des révolutionnaires français, et remontant au-delà, ce qu'il a pu dire au sujet du philosophe Kant.
Exactement. Alors, dans le cas des révolutionnaires français, on voit sa théorie postmoderne s'appliquer, par exemple, dans le fait d'assimiler... c'est un exemple, c'est dès le départ dans son œuvre, d'assimiler Saint-Just à Hitler.
Alors, un auditeur vient de nous reprocher récemment de faire des amalgames de la sorte et de vouloir disqualifier des penseurs, des mouvements de pensée qui avaient à voir avec ce que tu appelles le postmodernisme, parce que ce sont souvent les ancêtres. Oui. Donc, pour les auditeurs qui nous ont suivis pendant l'émission de consacrée à Russell et celle consacrée à Carnap, on s'en prenait typiquement, finalement, à tous les ancêtres du postmodernisme actuel. C'est aussi pour ça que ça me semblait intéressant de t'inviter, parce que finalement, ça fait la continuité. Ça montre que c'est des enjeux qui sont assez actuels. Donc, voilà, un auditeur nous accusait de faire des amalgames et d'oser dire, peut-être, alors, il ne le disait pas tel quel, mais c'était ce qui semblait sous-entendu par son mail. On avait osé dire qu'Heidegger avait été nazi.
Et justement, comme Heidegger a été nazi, ce n'est pas du postmodernisme de le dire. Par contre, dire que Saint-Just et Hitler, c'est les mêmes, parce que tous les deux avaient un régime végétarien, voilà, ça, les bras vous en tombent. Et Onfray, c'est ça tout le temps. Et ça va si loin d'ailleurs, cette espèce de lubie qu'il a et d'obsession anti-révolutionnaire est construite à base d'amalgame que, par exemple, dans un article qu'il a fait sur Camus, il en a remis une couche sur Saint-Just, penseur pré-fasciste. Pourquoi ? Parce que Drieu-La Rochelle a écrit une biographie de Saint-Just. Enfin, on s'en fout que Drieu-La Rochelle ait écrit une biographie de Saint-Just. Mon Dieu, ça ne concerne pas Saint-Just. Ça concerne Drieu-La Rochelle. Et voilà, cette pensée des amalgames, cette pensée des oxymores, cette pensée des contradictions, cette pensée auto-contradictoire, c'est la fin de la pensée, c'est la mort de la pensée au plan philosophique, et puis au plan évidemment libertaire, c'est forcément une impasse.
Donc, oui, dans le lot, quand même, la Révolution française... Elle passe à l'as, et finalement, il rejoint la lecture de François Furet, d'une certaine manière, non ?
Bien sûr, et ça, c'est...
Pour expliquer aux auditeurs, François Furet, qui nous explique que la Révolution française, c'est la graine qui va pousser, qui va donner le goulag et l'Union soviétique.
Exactement.
L'arbre tentaculaire stalinien, quoi.
Oui, alors là aussi, on est complètement sur un schéma de pensée qui est...
Et François Furet n'était pas un progressiste...
Loin de là. Et c'est ça que j'ai appelé aussi le révisionnisme postmoderne et le révisionnisme idéologique appliqué à l'histoire. C'est ça le révisionnisme historique.
Alors, précise qu'il ne s'agit pas du révisionnisme...
Oui, je l'ai bien dit dans le livre. Oui. Je l'ai bien dit dans le livre, il ne s'agit pas du révisionnisme qui tend à réviser le nombre de personnes qui ont été assassinées dans les camps pour ensuite même nier l'existence des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une pensée qui révise l'histoire... au sens où elle propose de lire de manière contraire aux faits ce qui s'est passé et, en fait, de salir tous les mouvements révolutionnaires. C'est la théorie de la contre-révolution appliquée à l'histoire qui permet de repenser l'histoire comme étant finalement l'histoire révolutionnaire, l'histoire des révolutions, comme n'étant que le fait d'abominables criminels, buveurs de sang, figurent dans la pensée de Furet, de ce qu'il appelle l'homo ideologicus. Et il y a une chose très importante dans ce révisionnisme postmoderne et historique, c'est que on pense tout par figure. Il n'y a pas de concept. C'est la négation de la philosophie rationnelle qui tend à toujours construire un concept et donc à définir les termes qu'on utilise pour penser la réalité. On pense par figure, on fait Saint-Just, on met la figure de Saint-Just, on prend la figure d'Hitler, on les met l'une sur l'autre et on dit finalement c'est les mêmes, la preuve, tous les deux étaient végétariens. Voilà, et on fait comme ça toute une série d'amalgames, et c'est la pensée par figure dans le domaine historique, ça donne le révisionnisme, ça permet de dire par exemple que Marat et Robespierre, alors Robespierre est qualifié de plus infâme et infect opportuniste qui ait jamais existé, alors que tout le monde sait que Robespierre était un type raide comme la justice, ce qui d'ailleurs pose un problème, et a posé un très lourd problème à la Révolution française, mais peu importe. Hein. Et à chaque fois, c'est toute cette série d'amalgames qui permet de dire n'importe quoi sur les sujets d'histoire, et de salir les hommes de la Révolution. Bon, il était temps d'arrêter, encore une imposture, donc d'arrêter de laisser pérorer quelqu'un qui se présente comme progressiste, alors qu'il détruit l'image, justement, hein, en termes, puisqu'il pense en termes d'image, et qu'il salit les hommes de la Révolution. C'est inacceptable. Quand on est un contre-révolutionnaire, je dirais affirmé, aussi bien un affirmé qu'il l'a dit dans ses textes, on l'assume, et on ne se présente pas comme un homme de gauche, un peu partout dans les médias. Mais ce n'est pas très étonnant que les médias le voient comme un homme de gauche.
Oui, vu où ils en sont. Oui. Et alors ça nous entraîne directement au dernier thème que tu attaques, Chionfray, c'est ce qu'il appelle le post-anarchisme. Alors, post-anarchisme, moi, d'après ce que j'ai compris, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu les bouquins d'Onfray parce qu'ils me tombaient des mains. J'ai pas eu ton courage d'en lire une trentaine. J'en ai lu 5-6 il y a longtemps. Donc, le post-anarchisme, j'avais l'impression que c'était en quelque sorte le mot d'ordre d'Onfray en matière politique, c'est ne changez rien, jouissez dans votre coin.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux préciser tout ça, toi?
Bien
sûr. Post-anarchisme.
Le post-anarchisme. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ça a été un des éléments qui m'a déterminé à écrire mon livre, c'est que j'ai lu l'ouvrage, un des derniers ouvrages qu'il a écrit, il s'est sorti en octobre 2012, Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. Et là, dans Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il appliquait la logique de la déconstruction de la connaissance et de la pensée à l'anarchisme, que ça lui permettait de réviser le contenu politique de l'anarchisme pour le détruire de l'intérieur. Et je l'ai vu, en fait, parce que c'est un homme qui compte au plan idéologique, je l'ai vu prendre l'anarchisme pour le faire exploser de l'intérieur. Et ça m'a déterminé à écrire cet ouvrage contre lui, car comme il se prétend libertaire alors qu'il ne l'est pas, autre imposture, eh bien, c'était intéressant de voir comment il révisait le corpus et l'histoire de la pensée anarchiste. Alors, pour le dire rapidement, là aussi, il construit toute une série de figures, d'oxymores, d'éléments de pensée contradictoires. Il mélange tout avec tout dans le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. Et, par exemple, entre autres, hein, parce qu'il dit beaucoup de choses dans cet ouvrage, il explique que la pensée, en fait, anarchiste, telle qu'elle est censée être défendue par ce qu'il appelle les défenseurs les gardiens du temple libertaire, les anarchistes d'église, hein. On se sent à peine visé quand on voit des phrases comme ça.
Amen.
Amen. Eh bien, il propose, en fait, donc cette pensée dite d'église de l'anarchisme classique, il propose de la remplacer par une nouvelle pensée. Et là, on voit débarquer une espèce d'inventaire à la Prévert d'une confusion totale, où il cite les uns derrière les autres tous les auteurs de la pensée libertaire, pour leur faire dire des choses qui ne sont pas forcément significatives de leur pensée, ou ne correspondent pas à leur pensée, et une fois qu'on les a alignés, rien du tout, parce qu'on ne comprend plus rien à ce qu'est l'anarchisme. Il y a une disparition complète de l'idée de l'anarchisme révolutionnaire collectif. Il est remplacé par l'hédonisme dont tu as parlé, l'espèce de jouissance individuelle qui serait censée nous apporter l'émancipation, et ce d'autant plus qu'on arriverait à en faire quelque chose de collectif. Enfin bon, visiblement, il projette...
Une partouze.
Je ne sais pas, mais visiblement, il projette quelque chose qui est de l'ordre de sa jouissance personnelle à lui.
Collective.
Sur le collectif. On sent qu'il y a un désir de partage à tous les niveaux, et peut-être au niveau sexuel, il faudrait lui demander. Mais il y a visiblement, surtout une confusion théorique incroyable, et c'est présenté comme étant une synthèse de la pensée libertaire. Et là, il m'a semblé qu'il fallait réagir. Alors, ça, entre autres bêtises qui sont dites dans cet ouvrage et ailleurs, mais c'est surtout, là, c'est sur son site, par exemple, il se déclare sioniste pro-palestinien. C'est ça, la nouvelle synthèse anarchiste. Soit on est sioniste, soit on est pro-palestinien. Il faut choisir. Un peu plus loin, il nous rappelle l'importance d'être un capitaliste libertaire, comme je l'ai dit. Bon, là aussi, soit on est capitaliste, soit on est libertaire. Faisons des choix.
Mangeons du saucisson sucré.
Voilà, c'est ça. On va bouffer des trucs à l'anglaise. En fait, il propose un régime à l'anglaise, du bacon et du sucre. Non, en fait, on n'en peut plus de cette espèce de gloubi-boulga de la pensée. Hein. On est au niveau là, de quelque chose qui fait penser à Casimir. Et il y a un moment où il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Bon, il m'a semblé qu'il fallait que quelqu'un relève le défi, le dise, parce que là aussi, quelle incroyable imposture que d'oser écrire des ouvrages, je veux dire, on en parlera peut-être, mais des ouvrages qu'on appelle l'ordre libertaire, dans lequel, en fait, On ne développe pas véritablement d'analyse libertaire au sens collectif, et où on dit trois mots en passant de la Révolution espagnole. Enfin, il n'y a rien d'anarchiste collectif ni d'anarchiste construit, quoi, au plan théorique et au plan pratique, dans son discours. Et au contraire, ce qui résume toujours la pensée idéologique, c'est un confusionnisme extrême. Hein, la base, ce qui est l'indice toujours de la pensée idéologique au mauvais sens du terme, quand on voit une idéologie se mettre en place, et là c'est l'idéologie postmoderne, c'est qu'elle produit et ne produit que de la confusion. Son but est de nous désorienter et de nous empêcher de comprendre le monde et de comprendre l'histoire de manière cohérente, aussi bien le passé que le présent. On nage dans la purée.
Merci Mickaël, on continuera l'émission donc après une pause musicale. Je ne sais pas ce qu'a prévu José, il ne le sait pas non plus. On nage en pleine confusion. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est l'émission Jeudi Noir avec José à la technique, moi qui vous parle, donc Michel, et Mickaël, notre invité, qui a écrit donc un livre intéressant, très intéressant, qui s'intitule Michel Onfray, une imposture intellectuelle. C'est publié aux éditions de L'Épervier. Voilà, vous venez d'entendre une chanson du groupe mondialement connu, du groupe canadien mondialement connu, qui s'appelle No Means No. C'est tiré de l'album Osfart, qui a été multiple disque d'or en Inde. Et c'était le morceau Mr. In Between. Voilà, donc avec l'immense bassiste Rob Wright, le grand.
Très connu.
Très connu, le grand batteur John Wright, son frère, et le guitariste qui écrase Jimi Hendrix, Tom Holliston. Voilà, donc on va reprendre donc l'émission. Donc voilà, alors maintenant qu'on a laissé Michael en toute liberté étrier la philosophie Michel Onfray, nous allons passer au côté constructif. Et donc, parce que tu cites Proudhon,
oui.
Construire et enfin, détruire et construire après.
Bien sûr.
Donc toi, tu proposes, tu pars d'une remarque d'Onfray qui est pas si fausse finalement, où il dit voilà, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau au XXe siècle comme théorie de l'anarchisme. Et donc lui, il en propose une dont tu viens de dire que finalement elle détruit tout ce qui constitue l'anarchisme d'un point de vue. Comment dire, théorique et pratique.
Ouais,
et donc, mais en même temps, tu reconnais que, il essaie de remplir un espace parce que cet espace existe. Et donc, il s'agirait de reprendre possession de ce territoire théorique et pratique, en proposant les deux volets, l'aspect un cadre de pensée et un cadre d'action. Alors, on peut lire parfois que les anarchistes n'ont pas besoin d'idées, mais qu'ils ont besoin d'agir. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de bien si on ne sait pas ce qu'on fait. Et pour savoir ce qu'on fait, il faut avoir deux, trois idées. Donc, c'est quand même toujours un petit peu mieux. Parce que sinon, on tombe dans une espèce de maoïsme qui va nous affirmer que le con qui marche va toujours plus loin que l'intellectuel qui reste assis. Le problème, c'est que si le con ne sait pas où il va, on est mal. Donc, on va peut-être pas trop insister sur le côté théorique, même si on va dire deux trois choses là-dessus parce que je les pense importantes aussi. Et puis après on va peut-être insister plus sur le côté pratique malgré tout. Donc dans cette espèce de cadre que tu donnes.
Alors, mais que j'appelle le suranarchisme.
Oui,
faut le dire pour nos auditeurs.
Que tu appelles le suranarchisme. Alors du point de vue théorique, moi il me semblait que l'aspect essentiel. Mais ça c'est peut-être une déformation
professionnelle,
on va dire intellectuelle de ma part, c'est que tu essaies de justement de mettre en avant la nécessité du rationalisme
et des sciences
pour l'anarchisme. C'est-à-dire rappeler un petit peu et finalement c'est des fondamentaux, c'est-à-dire que ce soit Kropotkine ou que ce soit Bakounine, Proudhon, à l'état d'égard, c'est des héritiers des Lumières.
Alors, bien sûr.
Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ?
Oui, bien sûr. Alors, ce que j'ai fait dans cette deuxième partie, donc après avoir critiqué en effet de manière radicale la pensée de Michel Onfray, c'est de proposer, face à ce post-anarchisme et à ce post-modernisme, une pensée qui en effet se fonde et s'appuie sur la raison, sur les sciences, sur le matérialisme. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué dans la première partie, lui, ce qu'il propose en fait, c'est de la critique littéraire, comme je dis. Et au contraire, moi, je considère que les grandes pensées et aussi les grandes actions qui découlent des grandes pensées, elles reposent, et notamment dans l'histoire de la philosophie, sur un dialogue fructueux avec les sciences et sur le dialogue avec la raison. C'est parce qu'il y a un dialogue au plan de la connaissance, un dialogue très élevé, un très haut niveau de connaissance avec les sciences de son temps, qu'un philosophe construit sa pensée. Et c'est grâce, en tout cas, à ce dialogue qu'il construit sa pensée. Et en même temps qu'il le construit dans le rapport avec les conditions politiques, historiques déterminées. Mais c'est ça qui est fondamental. Et donc, si on voulait essayer d'échapper à ce storytelling permanent que propose le postmodernisme, qui n'arrête pas de raconter, de narrer, et de raconter des petites biographies sans importance...
Le storytelling, j'explique vite fait aux auditeurs, c'est quand même, au fond, c'est l'idée qu'il n'y a pas de différence fondamentale au niveau de la connaissance qui nous est apportée dans les discours. La science est un récit comme un autre.
Voilà.
Il y a le récit de la Genèse, il y a le récit de la science.
C'est faux.
Et c'est deux récits. Voilà, c'est ça le storytelling, à appliquer tel qu'il est par le postmodernisme.
Exactement.
Il fallait le dire.
Bien sûr, bien sûr. Et en fait, tous ces conteurs du dimanche, avait besoin en tout cas le conteur du dimanche auquel je me suis intéressé avait besoin qu'on lui fasse une réponse le lundi matin, il fallait faire une réponse. Et donc pour m'appuyer, je me suis appuyé sur Kropotkine. Pourquoi ? Parce que Kropotkine, dans un ouvrage qui s'appelle La science moderne et l'anarchie, explique bien ce lien dont tu as parlé entre l'anarchisme et la pensée des Lumières. Il explique comment et pourquoi l'anarchisme s'est construit dans le dialogue avec la pensée des Lumières, donc avec la pensée qu'on connaît bien du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau, Diderot, bien sûr, les grands penseurs. Et comment ensuite elle s'est appuyée sur les sciences et le développement des sciences au XIXe, notamment sur Darwin, mais un Darwin comment dire, largement d'ailleurs nuancé par les thèses de Kropotkin lui-même, et comment donc on est arrivé comme ça à construire une synthèse nouvelle. Et je me suis dit, si on veut partir, en effet, si on veut arriver à mettre un coin dans l'idéologie de la confusion et espèce de storytelling de notre ami Michel Onfray, il faut repartir du rationalisme. Et du coup, repartir de Kropotkin, repartir aussi d'auteurs comme Bachelard, et bien sûr de Proudhon.
Donc Gaston Bachelard, un philosophe français du XXe siècle, qui s'est beaucoup intéressé à la science.
Énormément.
Et qui a écrit tout un tas d'ouvrages, mais pas que, d'ailleurs. Il a écrit aussi beaucoup d'ouvrages sur l'imagination, parce que oui, il lui accordait de l'importance.
Oui.
Tant qu'on n'essayait pas de la confondre avec la raison, c'était l'idée.
Exactement.
Donc, vive l'imagination.
Hein. Oui, bien sûr.
Mais c'est pas ça le problème.
Tout à fait.
Voilà, Gaston Bachelard, c'est un philosophe assez important dans la matière.
Je me suis aussi appuyé sur Russell. Parce que là aussi, c'est quelqu'un qui dit des choses passionnantes au plan... justement, ce sont des hommes qui, aussi bien Bachelard que Russell, ont su tirer des leçons quant à la structure physique du monde au fur et à mesure que des théories physiques étaient renouvelées. Au tournant du XXe siècle, il y a eu des révolutions considérables qui ont été opérées dans les sciences, avec Einstein et la théorie de la relativité générale, et aussi avec la physique des quantas, et... Voilà, ça, c'est à partir d'un dialogue avec ces hommes-là, et à partir de leur dialogue à eux avec les sciences, il était possible de renouer le lien perdu, à mon avis, avec justement la philosophie des Lumières, l'exigence d'une pensée rationnelle, donc claire et distincte, mais aussi concrète, et qui permette de construire et de dire des choses cohérentes. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Redonner de la cohérence au projet anarchiste, en montrant comment il pouvait s'appuyer sur un dialogue fructueux avec les sciences.
Oui, parce qu'autrement, finalement, on s'inscrit dans une ligne presque à la Sorel, hein. C'est-à-dire qui est ennuyeuse, parce que Sorel, c'est l'idéologue du mythe.
Oui.
C'est lui qui
et de l'irrationnel.
C'est l'irrationnel, parce qu'il pense que la raison est trop faible pour avoir un impact quelconque d'un point de vue politique. Donc il pense qu'il faut mener les masses à coup de mythe. Et oui, au début, il s'est intéressé au mythe de la grève générale, mais très très vite, il a compris que le mythe de la nation, ça marchait mieux.
Oui.
Mais c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé,
en admirateur de Mussolini.
En admirateur de Mussolini.
Oui.
Donc bon,
éviter l'irrationalisme qui nous est proposé, revenir au rationalisme pour reconstruire une théorie générale et repartir de l'avant. C'est ça l'idée de cette partie théorique. C'est vrai que je ne peux pas ici, en quelques minutes, donner tous les détails que j'ai pu exposer dans l'ouvrage, mais ce que je peux signaler aussi, c'est que dans cette partie, on va la retrouver dans la deuxième partie, donc qui est plus pratique, sur cette partie, ce que j'appelle le suranarchisme en général, je parle aussi de l'apport des sciences contemporaines dans le domaine de ce qu'on appelle la théorie dite de la complexité ou de l'auto-organisation. Nous, dans l'anarchisme, on se réclame beaucoup de l'idée d'autogestion, de l'idée de spontanéité des mouvements, des révoltes, des masses. Il se trouve que dans les sciences contemporaines, d'énormes progrès ont été faits qui vont dans le sens d'une mise en évidence justement des mouvements d'auto-organisation et d'auto-régulation dans la nature elle-même. Et c'était donc intéressant de revenir et d'essayer de voir ce que on pouvait tirer de cette idée d'auto-organisation dans les sciences de la nature, dans le domaine ensuite des sciences humaines et des sciences politiques, pour renouer là encore le lien avec le matérialisme dont parle Kropotkin. Et en faisant ça, en montrant comment les scientifiques progressent en ce moment même et font avancer leurs recherches en parlant d'auto-organisation, on pouvait proposer une théorie politique renouvelée pour nous qui favorise l'idée de la révolution collective. Car contrairement à Onfray, nous ici, on croit à la révolution collective. On croit au grand soir. On est désolé pour nos amis hédonistes, individualistes, jouisseurs d'eux-mêmes, narcissiques, flamboyants et tutti quanti. Mais nous, on y croit. Voilà. On veut y croire et surtout, on veut la favoriser. Car ce n'est pas une croyance au sens irrationnel, c'est un désir de voir changer le monde.
Et on ne croit pas que ça pourra se produire en restant chacun dans son coin
exactement,
à profiter de soi-même. Soit il y a du monde, soit il ne se passe rien. Mais ce n'est pas dans une université populaire qui parle d'Épicure qui va se passer quoi que ce soit, de ce point de vue-là. Donc,
c'est sûr.
D'ailleurs, d'Aristide de Cyrène, d'ailleurs, plutôt qu'Épicure.
Oui, mais. Et de Diogène.
Oui, Diogène.
Qui s'est masturbé avec un poisson, nous apprend-il. Encore un de ses enseignements. Pas très facile, le truc.
Quoi, Diogène devait avoir des compétences qu'on ignore.
Faut des gros poissons.
C'est bien. J'avais oublié ce détail du poisson, tiens. Donc, ouais, moi, ce qui me semble le plus important, c'est justement cette idée quasiment de méthode. Après, je suis plus sceptique sur la façon dont on peut tirer des... Comment dire, est-ce qu'on peut appliquer directement des résultats scientifiques comme ça à la société humaine? Je crois que c'est très compliqué. Mais par contre, en termes de... Ben, ne pas se faire le chantre des mythes, des figures, de l'imagination.
De toute façon, on n'a pas le choix.
Du chamanisme nietzschéen, ben oui, oui.
Bien sûr. Forcément. Car il nous propose un faux matérialisme, qui est en fait un matérialisme qui dit être nietzschéen et dionysiaque, tout simplement un rêve éveillé, qui n'a rien à voir avec le matérialisme. Le matérialisme parle de la matière, donc il parle des structures du monde et de la matière. Soit on comprend les évolutions qui sont faites dans ce domaine-là, soit on ne les comprend pas. D'ailleurs, je le précise, l'ouvrage que j'ai écrit propose un certain nombre de principes, directeurs pour la pensée. Je ne propose pas d'appliquer un schéma découvert dans la nature à la société. D'accord. Mais, dans la perspective du programme de Kropotkin, je propose de penser de manière synthétique la conception qu'on peut avoir et de la découverte des phénomènes d'auto-organisation dans la nature et l'idée d'auto-organisation dans les sociétés. Je propose de faire le lien, mais je ne dis pas que c'est la même chose. Néanmoins, il y a une analogie très forte, et il faut le dire, dans tous les grands systèmes de philosophie, à un moment ou à un autre, en passant par un biais ou par un autre, que ce soit celui de la logique, des mathématiques, de la physique, peu importe, propose ce type de décalage, et essaie de d'ouvrir une nouvelle perspective à partir de ce dialogue fructueux. C'est pas un principe d'application dogmatique, c'est ce que je veux dire.
D'accord, très bien.
Voilà.
Donc, alors...
Peut-être voir la partie pratique.
Un petit morceau de musique avant, et puis on l'attend.
Très bien.
Un court morceau, s'il te plaît, José. Vous écoutez Radio Libertaire 89.15, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio donc sans Dieu ni maître, et c'est Jeudi Noir, troisième et dernière partie, avec Michael Parer pour son livre intitulé Michel Onfray, une imposture intellectuelle, qui a été publié par les éditions de l'Épervier. Donc avant cet intermède musical, on voyait un petit peu comment, Michael, tu voulais renouveler l'anarchisme du point de vue théorique. Donc on a vu ça pas très vite, hein. Allez voir le livre si vous voulez plus de détails. Et maintenant, donc, pour clore l'émission, on va voir comment tu proposes de le renouveler du point de vue pratique. Donc si je résume un peu les grands thèmes, t'en as 5. 5 remèdes, oui. aux troubles politiques actuels. Donc, ne pas craindre l'action de masse, plutôt que de rester dans sa tour d'ivoire à se curer le nombril.
Oui.
Ne pas faire du pouvoir le mal absolu.
Non. Éviter d'avoir une conception religieuse et manichéenne du pouvoir.
Ne pas condamner la violence a priori. c'est-à-dire genre la violence c'est toujours mal,
c'est ça.
Là encore c'est un refus d'un absolu, oui. Et se mettre au service du peuple, et pour aller vite,
oui.
Et puis essayer d'être moins sectaire.
Enfin. Oui, j'ai appelé ça ne pas craindre d'avoir des amis ou des compagnons différents de soi.
Voilà.
Et oui, tous ces points sont importants, parce que c'est vrai qu'il y a une chose qui me paraissait intéressante, au moins, dans le défi que proposait la réflexion d'Onfray, comme tu l'as dit au départ, c'est qu'il faisait le constat d'une certaine forme d'impasse dans laquelle se trouve le mouvement libertaire. Et même s'il est très insultant dans son livre « Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère », où il explique que les anarchistes, en fait, sont des anarchistes d'église, des anarchistes sectaires, néanmoins, il mettait le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai que quand on voit qu'un mouvement ne progresse pas politiquement, alors que moi, je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'il a tous les éléments en lui, qui, surtout en période de crise, qui devraient lui permettre de... justement, de progresser, c'est qu'il y a en effet peut-être un certain nombre de problèmes. Ça peut être des problèmes au niveau théorique, des problèmes au niveau pratique. Enfin, il ne faut pas hésiter à se confronter à ces problèmes. On ne doit pas avoir peur, en tant qu'anarchiste, de critiquer certains éléments de la pensée anarchiste. Surtout si on continue de s'inscrire dans un héritage. Parce que moi, contrairement à lui et à tous les penseurs, à lui je pense à Onfray, et à tous les penseurs que je qualifie de révisionnistes postmodernes et contre-révolutionnaires, je m'inscris dans un héritage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'affiner la pensée anarchiste, il ne s'agit pas de la retourner en son contraire, de la retourner comme une crêpe pour en faire un vague réformisme et un individualisme bourgeois stupide, comme le propose en fait de manière assez minable l'essentiel des personnes qui vont dans le sens de cette réflexion faussement hédoniste. Donc, voilà, ne pas douter de l'action de masse, c'est très important, parce que on voit bien que, d'une certaine manière, et ça je l'explique un peu, je l'explique dans le bouquin, le mouvement anarchiste a, en France en tout cas, subi un certain nombre de défaites qui font que on s'est trop facilement reconnu dans un discours individualiste. Ça permet de justifier la faiblesse des effectifs, des forces et des objectifs qu'on se donne. Et l'échec de la commune, au cours duquel, c'est vrai, beaucoup d'anarchistes ont été tués, a ouvert la voie à une tradition de pensée individualiste qui a été en fait un moment de repli, qui ensuite a tourné au sectarisme et au nombrilisme.
Entre-temps, il y a eu quand même l'intermède du syndicalisme révolutionnaire.
C'est ça, il y a eu un certain nombre d'expériences, et notamment, c'est vrai, le syndicalisme révolutionnaire, mais lui aussi, finalement, a été vaincu, et vaincu notamment avec pendant la Révolution espagnole, car les syndicalistes révolutionnaires qui ont poussé le plus loin l'expérience collective autogérée, ce sont les Espagnols. Et enfin, toute une série de défaites, donc, ont plus ou moins justifié dans l'idée de certains libertaires, même aujourd'hui, l'idée que finalement c'était l'individu qui était l'horizon, la fin, le moyen de toute chose, et l'alpha et l'oméga de la pensée anarchiste. Et je crois que ce n'est pas vrai. Et du coup, ce que je propose dans cette réflexion, c'est de s'ouvrir à l'idée d'action de masse, ne pas hésiter à rejoindre, quand on est anarchiste, les masses et les gens qui se battent de manière concrète dans leur lutte. De ce point de vue-là, je crois que si on se positionne par exemple du point de vue intellectuel, le rôle d'un intellectuel aujourd'hui, c'est d'accompagner aussi les masques et les gens qui se battent là où ils se battent, sur le terrain. On n'est pas assez présent aux côtés des gens qui se battent. C'est un problème. Si on ne fait pas la jonction avec les travailleurs en lutte, comment est-ce qu'on peut espérer que notre théorie progresse? Je note au passage qu'Onfray n'est jamais présent sur un piquet de grève. C'est normal. Cette théorie de l'individualisme hédoniste jouisseur de soi et d'être le condottiere de son existence et le matador de sa vie, ben, ça ne conduit pas en effet à se mettre aux côtés des gens qui sont dans la lutte et dans la grève. C'est un problème.
Comment veux-tu sculpter ta personnalité sur un piquet de grève?
Oui, c'est ça.
Michael, je trouve méchant et injuste là.
Oui, mais justement, il la sculpterait mieux et il pourrait vaincre de manière collective. C'est ça qui manque en fait à tous ces donneurs de leçons médiatiques dont il est l'exemple même, l'exemple type et le parangon. C'est qu'il leur manque l'idée de rejoindre les masses pour avoir une action collective. Il est enfermé dans une conception finalement totalement déconstruite de la pensée libertaire et de l'action libertaire qui au fond l'auto-justifie dans l'abstention de l'université du goût d'Argentan. On se gave d'anecdotes et on se gave tout court dans les universités de Caen et d'Argentan.
Du repris, l'idée c'est qu'il y a derrière tout ça, c'est juste, il n'y a plus rien à espérer, donc autant faire ma petite révolution individuelle.
Exactement.
Je vais changer de canapé, par exemple. Voilà. Hop.
Oui, changeons de chaussettes et de jeans. Et voilà, changeons notre canapé. Non, ça ne va pas. Changeons notre cuisine. Non, on a besoin... Et alors, en plus de cette idée d'être... Justement, d'accompagner les personnes qui sont en lutte dans leur lutte, il y a aussi l'idée, à mon avis, qu'on devrait reconsidérer du pouvoir. Il y a dans la pensée anarchiste une espèce de crainte absolue du pouvoir. C'est le mal. On a l'impression d'une substance maléfique. Mais quand on regarde bien l'histoire, par exemple, du mouvement de la Révolution espagnole, et ça je le dis aussi dans le livre, si elle a pour une part échoué, c'est parce que le pouvoir n'a pas été pris. Au moment où il se présentait, où il aurait dû être pris, on a tergiversé. Bon, y a des raisons qui l'expliquent, hein, c'est pas non plus... Comment dire, mon livre n'est pas ce n'est pas un livre qui porte des jugements sévères sur ces expériences. Au contraire, je propose qu'on se mette dans leur foulée. Mais il y a des occasions qui ont été manquées et on n'a pas pris le pouvoir parce que on n'a pas bien compris que comment dire, le pouvoir c'était pas une substance en fait. Hein, le pouvoir c'est pas quelque chose d'autre. Le pouvoir c'est ce qu'on doit prendre pour le rendre aux gens parce qu'il leur a été volé. Et si on n'est pas capable de le prendre, si on n'est pas capable politiquement de se dire qu'il faut aller jusqu'à accompagner les gens dans leur révolte pour reprendre le pouvoir, pour reprendre leur pouvoir, alors on se met dans une situation où finalement on s'exclut de tout. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup trop la tendance de l'anarchisme contemporain, qui est aussi l'héritier d'une histoire. Comme je le dis, on a trop hérité d'une philosophie de vaincu. Il faut retrouver le sens de la philosophie de la victoire. Et donc, l'idée de reprendre le pouvoir. Pourquoi ne pas la faire nôtre ? Bien, le pouvoir n'est pas le mal absolu. Celui qui pensait que le pouvoir était un mal absolu, ceux qui le pensent sont des personnes qui ont en fait un point de vue... qui est insuffisamment nuancé, voilà, tout simplement, sur la réalité.
On pourrait tout simplement avancer que les relations de pouvoir sont une réalité qu'il faut prendre en compte, si justement, aussi, on veut en limiter
les effets négatifs, bien sûr.
Et c'est pas en niant cette réalité, en gros, le fait qu'il y a des relations de pouvoir entre les êtres humains, qu'on va s'en débarrasser. Au contraire, on va la faire proliférer à l'ombre. Non, il n'y a pas de relation de pouvoir chez nous. Non, bah, c'est là qu'ils vont pousser partout.
Et puis on le laisse aux autres.
Oui, en plus. Les autres qui vont eux s'en emparer, s'en servir contre nous, de préférence.
Ce cas, par exemple, de la Révolution espagnole, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment, on a pratiqué la politique de la chaise vide, on se retrouve finalement on se retrouve dans une situation compliquée au plan politique parce qu'on pratique la politique de la chaise vide. Il faut arrêter de pratiquer les politiques de la chaise vide dans le mouvement anarchiste. C'est une erreur très grave. Et pour revenir sur un des derniers points qui m'a intéressé, il y a toute une théorie de la spontanéité des luttes, j'en ai un peu parlé, en disant qu'il fallait accompagner les luttes actuelles en se mettant aux côtés des gens qui sont dans des combats politiques précis et déterminés, pour aider à construire un ordre... J'allais dire un ordre nouveau, mais c'est pas un mot très heureux. Mais je crois qu'il faut pas s'arrêter au mot. En fait, il faut en effet être capable de penser des structures nouvelles. Il est né du travail des révolutionnaires anarchistes, toute une succession d'expériences nouvelles et d'organisations nouvelles de la société. Ça a été le cas en Espagne, c'était le cas dans beaucoup d'endroits. Et on ne doit pas avoir peur de l'idée que en créant une nouvelle réalité, on crée aussi une forme nouvelle d'organisation des rapports humains, et ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Qu'est-ce qu'on attend pour enfin se mettre au diapason de l'histoire et se dire qu'on peut prendre le pouvoir, qu'on peut aider à un changement réel, qu'on peut organiser vraiment les choses de manière intéressante et participer de manière active à l'émancipation des gens? Qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, je crois que c'est donc qu'il faut le faire. Et de ce point de vue-là, c'était la dernière idée que j'ai avancée. Je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de s'allier à d'autres que nous. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, ce que fait Onfray, il est clair qu'il ne sortira jamais rien de nouveau, il n'émergera jamais rien de nouveau des deux petites universités sans ambition qu'il a créées. Justement, ce qui devrait nous intéresser, nous, c'est de voir quels sont les mouvements qui, aujourd'hui, proposent d'élaborer quelque chose qui soit une alternative réelle à l'économie capitaliste, je dirais, classique, et à l'ordre politique tel qu'il est, pour justement avancer dans l'idée de la révolution du grand soir qui est la nôtre.
Bah, merci Mickaël. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je veux dire, c'est fini pour aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien, sur nos camarades de Entre Chien et Loup qui reprennent l'antenne après quelques instants de musique. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous contacter sur Gurdulu Jeudi Noir. Et voilà. À dans deux semaines. Thank you.